L'apôtre Paul est connu comme le grand théologien de la foi chrétienne. Mais il faut bien le constater, souvent, il n'a pas une super cote chez les lecteurs de la Bible et surtout chez les dames. Jugé trop moralisateur, trop exigeant, excessif, perfectionniste, il a pu décourager certains, même parmi les plus zélés. Et je me dispute souvent avec mon épouse à ce sujet. À propos de Paul, oui, et je trouve qu'il mérite mieux que cette image d'apôtre rigoriste et sexiste. Et ce chapitre 4 de l'Épître aux Colossiens va nous montrer une autre facette du personnage. J'espère, Christine, que tu seras convaincue cette fois. Alors, l'Épître aux Colossiens, juste quelques mots pour vous dire que c'est une épître courte qui est une mise au point théologique, une mise au point magistrale, qui est adressée à l'Église, parce que dans cette Église, il y a certains fidèles qui se montrent très autoritaires et qui cherchent à imposer aux autres leur façon de prier, leur piété, leur rite et aussi leur conviction théologique. Et Paul, vous relirez ce chapitre 2 de l'Épître aux Colossiens, va répondre à l'Église, va répondre à ces chrétiens un peu trop autoritaires, qu'agir ainsi, c'est se prendre pour le Christ, qui seul est le chef de l'Église, la tête, par qui tout le corps est soutenu et solidement assemblé. Colossiens 2, 19. Après cette mise au point théologique, Christ unique chef de l'Église, unique source de croissance, Paul va tenir un langage très pratique et recommander une manière simple et efficace de concevoir sa vie chrétienne et de la mener. Et c'est ce que je voudrais développer avec vous ce matin, ce petit plan en trois points pour bien vivre sa vie chrétienne, si ça vous va. Non ? Ah si, quand même, hein ? Des gens un peu intéressés là, quand même. Un plan en trois points en plus. Premier point, il faut persévérer dans la prière. Ça veut dire prier avec régularité et, attention, c'est très important que cette prière soit essentiellement une action de grâce. C'est-à-dire un remerciement. L'action de grâce, c'est un langage un peu pieux, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simple, ça veut dire apprendre à regarder ce qui est bon, ce qui est merveilleux, ce qui est enthousiasmant autour de nous, en nous, chez les autres, et nous réjouir de cela. La prière d'action de grâce, c'est un peu l'hygiène de vie du chrétien. On regarde d'abord à ce qui va et on dit merci. Et dire merci, ça rend heureux. Et pas que nous, mais ceux qui nous entendent rendre grâce. Vous savez, la prière de demande, nous sommes souvent plus les champions de cette prière-là que la prière d'action de grâce. La prière de demande est trop souvent construite à la dimension de nos manques, de nos frustrations. On demande et nous sommes souvent courte-vue. Ce n'est pas cela que recommande Paul ici, mais d'abord la reconnaissance. Voilà le premier point. La deuxième recommandation de Paul pour une vie saine et équilibrée, c'est assez original, hein ? C'est de nous conduire avec sagesse avec ceux du dehors. Les non-chrétiens, selon une autre traduction. Voilà une manière de racheter le temps assez surprenante. Je l'ai dit un peu plus haut, Paul répond ici à ces chrétiens trop raides, qui n'ont que jugement et réprobation à la bouche pour ceux du dehors et même ceux du dedans. Paul va recommander ici une autre attitude, qui est celle de l'amitié, celle de la main tendue. Apprendre à rejoindre l'autre là où il se trouve et non pas toujours attendre qu'il vienne à nous et qu'il devienne comme nous. Même si c'est au dehors de l'Église, voilà une manière de rester en bonne santé spirituelle. La tentation de la communauté chrétienne, que nous formons d'ailleurs, c'est de se considérer comme un peu le nombril du royaume de Dieu, comme la finalité de l'Évangile, comme le centre de tout, alors que l'Église n'est qu'une conséquence du salut, une conséquence parmi d'autres. L'Église n'est pas le but ultime de l'Évangile, seulement une étape du plan du salut. Elle est un moyen donné par le Christ pour vivre la foi sur cette terre, partout et avec tous. Le lien fraternel ne doit, pour le dire autrement, ne doit jamais virer au confinement fraternel. À l'entre-soi. Il faut donc chercher à vivre quelque chose de vrai et d'intéressant avec ceux du dehors. D'une certaine manière, ils vont nous rendre service. Ceux du dehors vont empêcher l'Église de s'enfermer au-dedans et de se prendre pour l'incarnation du royaume de Dieu sur la terre. Allons à la rencontre des autres, de ceux qui ne partagent pas notre foi et qui, certainement dans la relation, nous poseront des questions difficiles. Créons des amitiés, des liens au-delà du cercle communautaire. Il y a là de grandes bénédictions à vivre pour nous comme pour eux. Après la prière, après l'accueil de ceux du dehors, Paul nous recommande une troisième positive attitude. Tenir des propos bienveillants, relevés de sel, avec l'art de répondre à chacun comme il faut. Il y a du boulot, hein, quand même, un peu. On l'oublie trop souvent, mais savoir répondre avec bienveillance exige une qualité à la fois simple mais rare, c'est celle de l'écoute. Le dialogue de sourds, où chacun sait par avance ce que l'autre va répondre avant même qu'il ait pris la parole, ça, nous savons ce que c'est. Nous en avons tous fait l'expérience. Et c'est désastreux sur le plan des relations. Mais prendre le temps de l'écoute, accueillir l'autre dans sa particularité, qu'il soit pro ou anti-vaccin, voyez, c'est ça qui sépare actuellement. Accepter d'aller à sa rencontre, même si ça me dérange, même si ça m'agace. Eh bien, oui, c'est cela l'écoute chrétienne. Elle cherche à comprendre, elle cherche à accueillir l'autre dans sa différence, à condition que cet autre soit sincère et vrai. Il n'y a pas d'écoute possible face à une attitude manipulatrice et malveillante. Et il est d'ailleurs arrivé que le Christ se taise ou s'en aille en face de ses détracteurs. Mais le chrétien ne se limite pas à l'écoute. Il répond. Et pas toujours pour dire oui, amen. Hein. Sa parole est assaisonnée de sel, nous dit Paul. L'écoute du chrétien n'est donc pas une écoute naïve. Un peu comme on sale le fromage ou le jambon pour neutraliser les mauvais germes. La parole du chrétien sait discerner entre le bien et le mal, le vrai et le faux, le fiable et le tordu. Elle n'est pas dupe. Et si elle accorde toujours le bénéfice de la confiance a priori à tous, elle cherche la vérité et elle écoute avec intelligence, avec discernement, pourrions-nous dire. Mais attention, trop de sel rend la discussion infecte. Il faut apprendre à saupoudrer finement. C'est un art. C'est d'ailleurs la traduction de la Tobe, avec l'art de répondre à chacun comme il faut. Voilà, frères et sœurs, trois principes pour une vie chrétienne réussie. Prière persévérante à Dieu, ouverture inconditionnelle aux autres, bienveillance et discernement. Mais ceci étant dit, il faut relever que Paul ne va pas s'en tenir à ce cours de théologie pratique à enseigner dans toutes les bonnes facultés. Il va s'appliquer cette feuille de route à lui-même. Il va le faire avec une sincérité qui m'impressionne vraiment. Chaque nom de cette liste que j'ai lue tout à l'heure, cette longue liste d'amis, de compagnons, de collaborateurs, renvoie Paul à l'histoire de sa vie. Un peu comme la liste de membres de notre Église renvoie à nos histoires fraternelles, belles et éprouvantes, douces comme le miel ou trop salées, selon les cas. Mais ce qui se dégage de cette fin d'épître, de cette fin de lettre, c'est la chaleur, c'est l'amitié, la fraternité et la reconnaissance. Paul vient de citer 12 noms. Alors c'est peut-être un hasard, c'est peut-être aussi un symbole. Comme s'il s'agissait du peuple de Dieu tout entier, sans que personne ne soit exclu. Et sur les 12 noms cités, j'en repère 4 qui renvoient Paul à des histoires très salées, très difficiles, très éprouvantes. Oui, on peut encore avancer d'une diapo. Paul transmet aux Colossiens, voilà, les salutations de Marc, le cousin de Barnabas. En acte 15, on trouve le récit de ce conflit. Un conflit ouvert entre Paul et Barnabas. À propos de Marc, Paul s'était senti trahi par Marc qui avait abandonné la mission. Paul ne le voulait plus dans son équipe missionnaire. Le conflit devient si violent qu'il fallut se séparer. On ne pouvait plus marcher ensemble, alors qu'on était les uns et les autres évangélistes du Seigneur. Barnabas et Marc continuèrent leur route sans Paul, qui, lui, partit de son côté avec Silas. Et Marc est ici associé à Justus. En réalité, ce sont des chrétiens de culture juive, des judéo-chrétiens qui continuaient, tout en ayant accepté l'Évangile, à suivre un nombre important des aspects de la loi de Moïse. Alors que Paul lui prêchait avec vigueur une vie chrétienne complètement libérée de la loi de Moïse. Conflit de conviction, oui, conflit de sensibilité, conflit peut-être de piétés incompatibles. Mais ici, ça n'empêche pas Paul de transmettre aux chrétiens de Colosse les salutations de Barnabas et Justus, et de préciser qu'ils ont été pour lui d'un grand réconfort. Ça nous pose la question, où en sommes-nous avec nos conflits théologiques, avec nos querelles liées aux différences de piété, d'expression de la foi, au sein de la communauté, bien sûr, dans le premier cercle, mais aussi au dehors ? Nos convictions évangéliques nous empêchent-elles, par exemple, d'avoir des relations avec les catholiques ? L'attitude de Paul envers Marc, Barnabas et Justus, les judéo-chrétiens, nous appelle à revoir notre posture séparatiste ou anti-œcuménique. Parce que je crois qu'il y a un écart aussi important entre les convictions de Paul et celles des judéo-chrétiens. Vous n'avez qu'à relire Acte 15, le conflit de Jérusalem, vous comprendrez la difficulté. Il y a un quatrième nom sur cette liste qui va pousser Paul peut-être là, à l'extrême limite de ses capacités de gentil apôtre du Seigneur. Il transmet aux Colossiens les salutations d'un certain Démas. Paul écrivait à Timothée à propos de ce chrétien Démas. Il m'a abandonné par amour pour le monde présent. Il aurait dû normalement rayer de sa liste ce Démas, un traître, un lâcheur qui aime plus le monde que la cause de l'Évangile. Eh bien non. Au lieu de cela, il transmet les salutations de Démas à l'Assemblée. Ces quatre noms font bien partie de la grande famille de l'Église du Christ. Certains sont sans doute plus utiles, plus fidèles, plus fréquentables, plus engagés que d'autres, mais ils font quand même partie des 12 noms. Ils sont à compter parmi les frères et les sœurs aimés du Christ, malgré tout, leurs faiblesses et leurs limites. Nous sommes peut-être parmi eux. Oui, je parle des sœurs et des frères aimés du Christ. En parlant de sœurs, il y a Nympha. Vous l'avez vue passer ? Elle est juste responsable de l'église de Laodicée. C'est la première femme pasteur de l'église, je pense. Ça a beaucoup dérangé les premiers copistes du texte biblique parce qu'ils ont un peu masculinisé son nom en écrivant Nymphas, ce qui est un nom masculin. Ça faisait quand même un peu désordre, hein, une femme à la tête de l'Église. Et puis, il faudrait encore évoquer les très proches de Paul, Tychique, Epaphras, Onésime. Tychique, c'est le bras agissant de Paul. C'est le missionnaire voyageur infatigable qui transmet les lettres de la main de Paul aux églises et qui encourage les églises du secteur à s'échanger les lettres, à lire la Bible ensemble, à créer du lien entre tous. Ça, c'est Tychique. Epaphras, c'est le frère prieur, celui qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, mais dont l'intercession vigoureuse, constante, rend l'église forte, péchue, engagée. Epaphras, c'est l'homme aux mains jointes qui ne fait pas de bruit. Et l'Église a tant besoin de personnes comme ça. J'espère que vous avez changé d'opinion sur l'apôtre Paul. Au-delà d'ailleurs du « j'aime, j'aime pas », je trouve que c'est une très belle image de l'Église chrétienne qui est donnée ici par Paul. Une église qui prie, une église qui ouvre ses portes à tous, une église qui sort à la rencontre de tous, une église qui pardonne, qui oublie les mauvais côtés des gens, une église qui salue au nom du Christ, une église marquée par le sceau de la grâce, comme en témoignent les derniers mots avec lesquels j'avais commencé ce culte tout à l'heure. La grâce soit avec vous. Amen.